les enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Guillaume Werner. Donc comme promis, le regard comparé Russie-Europe avec notre invité Jean-Christophe Romer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'IEP de Strasbourg. Vous venez de publier un texte très très dense et particulièrement riche, avec d'ailleurs une approche géopolitique, des regards comparés entre les deux ensembles Europe-Russie, qui s'intitule justement Russie-Europe. Et le sous-titre, vous allez vous en expliquer, des malentendus pan-européens. C'est édité par l'Inventaire, l'Observatoire, c'est-à-dire le centre d'analyse de la CCI France-Russie. Alors, juste en première approche, pour le non-spécialiste, l'évaluation de ce rapport Russie-Union européenne ou Russie-Europe n'est pas simple pour un certain nombre de raisons. D'abord, le manque de cohérence de l'Union européenne. D'autre part, le rôle spécifique des grandes capitales. Également, les accords de partenariat, de coopération divers. J'ai donné une liste très rudimentaire, mais une liste quand même intéressante sur le site franceculture.fr. Ces accords ne sont guère convaincants depuis 1994. Il faudrait sans doute distinguer selon les responsables en fonction à Moscou, Helsinki ou Poutine, Medvedev. Il y a des événements dramatiques aussi qui ponctuent cette relation. Le Kosovo en 99, la Géorgie en 2008, la Crimée en 2014. Et puis les relations Russie-Europe passent aussi par Washington. Alors tout ça fait que ce n'est pas simple.
Voilà, ça fait beaucoup de choses à la fois. Alors effectivement, on peut avoir une approche institutionnelle de relations entre la Russie et l'Union européenne. Bon, c'est quelque chose là, c'est peut-être le plus simple, même si les choses ne sont pas aisées. Surtout qu'on est dans deux logiques d'approche un peu différentes. On a d'un côté à Bruxelles une vision finalement purement technicienne et de ce fait soumise à des pressions intérieures et extérieures plus politiques qui vont modifier l'approche à l'égard de la Russie, et de l'autre côté, du côté russe, une approche qui est quand même d'abord politique, avec ce principe qui est rappelé de façon récurrente par la Russie, que les États, surtout depuis une vingtaine d'années, que les États n'ont ni amis ni ennemis, mais des intérêts nationaux. Je dirais que c'est une devise séculaire, mais qu'il faut rappeler de temps en temps parce que ça correspond à des réalités.
Et puis alors c'est difficile de comparer aussi parce que la Russie est un État, c'est même un empire de tradition, et que l'Union européenne c'est 28 pays, et quand vous mettez dans la même salle à l'égard de la Russie, l'Allemagne et la Pologne, c'est deux morceaux de silex qui se choquent.
Alors, je dirais, le choix de ces trois pays est intéressant parce que moi, j'ai beaucoup cru au triangle de Weimar. C'est-à-dire, justement, la France, l'Allemagne et la Pologne, qui a été un machin quasiment inconnu du côté français. Il a fallu attendre, ça a été créé en 91, il a fallu attendre 97 pour que la première fois, il y ait un entrefilet dans la presse quotidienne française. Alors, les Polonais et les Allemands en parlaient quand même déjà un peu plus, mais les Français l'avaient complètement ignoré. C'est pour négocier avec la Russie, et on l'a vu dans la crise ukrainienne en février 2014, c'est le premier accord qui a été signé entre la Russie, l'Ukraine, Yanukovych et l'opposition et les trois pays du triangle de Weimar, c'est le premier accord qui a été obtenu. Le problème, c'est que le lendemain, Yanukovych s'enfuit. Il avait peut-être pas tout à fait à tort peur pour sa vie, ou pour sa liberté et sa sécurité. Mais il n'y a pas eu de suite. Alors, on est passé du triangle de Weimar à ce qu'on appelle le format Normandie, c'est-à-dire la même chose sur les Polonais. Et c'est un peu dommage parce que les Polonais, alors c'est peut-être pas un langage très diplomatique, mais les Polonais ont une vraie connaissance de la Russie depuis des siècles.
Et les Allemands aussi, d'ailleurs.
Avec une certaine hystérie. Et je dirais que les Français et les Russes vont calmer, les Français et les Allemands, pardon, vont calmer un peu les Polonais, mais ils vont bénéficier en même temps de sa connaissance. Donc il va y avoir un équilibre. Moi, j'ai beaucoup cru à ce triangle. Alors, dans l'état actuel du gouvernement polonais, c'est hors de question de l'envisager. On a un précédent avec les frères Kaczynski, l'un président, l'autre premier ministre, dans les années 2005-2006, où le triangle de Weimar était au point mort. Mais dès la disparition du président Kaczynski dans cet accident d'avion, je dis bien accident, hein, c'est d'avion, c'est reparti immédiatement avec le président Komorowski.
Alors, ce qui est frappant, vous êtes en train de nous dire d'une certaine façon que l'Europe en règle générale, l'Union européenne en particulier, n'a pas de politique réelle russe à l'égard de la Russie.
Il y a des politiques assez d'accord assez changeantes. Avec ce que vous dites. Alors, il y a eu la semaine dernière une réunion des ministres des Affaires étrangères.
Réunion, on sait faire à Bruxelles.
Alors, oui, on sait faire. Alors, il y a eu quand même une déclaration sur la Russie. 5 points, ça fait 5 lignes. Mais ça a été présenté comme une déclaration sur la Russie, avec 5 principes. Bon, principes un peu gentils et qui vont pas révolutionner la politique russe de l'Union européenne, ce qui a suscité des réactions légitimement ironiques de la part de la Russie. C'est finalement rien de neuf quand on vous dit il faut appliquer les accords de Minsk, qu'il faut renforcer le partenariat oriental, mener une politique de sécurité énergétique, sélectionner les sujets de coopération, et puis favoriser les relations avec la société civile. Bon, je ne vois pas le côté révolutionnaire de ces 5 principes.
Et on voit d'ailleurs la relation avec la Russie qui est presque névralgique, en tout cas, qui est très névralgique, oui, et pathologique en France, par exemple, parce que il y a un anti-poutinisme qui peut se comprendre, il y a un anti-russisme qui est derrière, parfois échevelé, avec des réactions très guerre froide, d'ailleurs, c'est-à-dire des analyses qui sortent vraiment des années 80.
Oui, ça commence un peu à se dire. Alors, en France, on n'aime pas trop le rappeler, mais il y a quand même un courant qu'on peut qualifier de néoconservateur qui prend...
Qui est souvent, d'ailleurs, d'origine socialiste en France, néoconservateur.
Absolument, mais ça c'est le vieil atlantisme de la SFIO, ce n'est pas nouveau. Et du coup, quand on ne dit pas de mal de la Russie, je ne parle pas de Poutine, je parle de la Russie, et que la Russie doit être un partenaire essentiel pour la construction européenne, qu'on ne peut pas se passer de la Russie et de l'Europe, on se fait tout de suite traiter de Front National, ce qui est quand même assez inconvenant.
Voilà. Alors, donc, il y a vraiment beaucoup d'accords entre l'Union européenne et la Russie, donc depuis 94, etc. Et on s'aperçoit que finalement tout ça n'est guère convaincant. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un peu du pragmatisme au coup par coup. Et puis le poids des événements, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire que l'affaire du Kosovo, l'affaire de Géorgie en 2008, l'affaire de la Crimée, l'annexion militaire par Moscou de la Crimée, tout ça fait lourd.
Je crois que les 25 dernières années ont été marquées par une succession d'actions-réactions d'un côté et de l'autre, provocation du côté russe, maladresse ou incompétence du côté occidental, en général européen en particulier, et que chaque situation va un peu aggraver les tensions entre les deux, comme si on avait l'impression que on ne voulait pas que la Russie fasse partie de l'Europe. Alors c'est vrai que du côté russe, il y a aussi une partie qui ne souhaite pas être considérée comme européen, mais je crois que la Russie est une partie constitutive du continent européen. Je parle du continent, je ne parle pas des institutions. Une partie constitutive du continent européen, et que les Européens n'ont pas intérêt à rejeter la Russie dans ses espaces les plus orientaux.
C'était l'idée de Brzezinski.
C'est l'idée exactement de Brzezinski, on l'a constaté. Et il y a une remarque de la même année que la sortie de Brzezinski de George Kennan sur l'élargissement de l'OTAN, qui disait, voilà, élargir l'OTAN à l'Est, c'est renforcer les tendances les plus nationalistes en Russie, c'est une erreur fatale.
Il faudra revenir d'ailleurs sur cette question de l'OTAN et des élargissements de l'OTAN. Merci beaucoup Jean-Christophe Romer. Votre ouvrage Russie-Europe, alors le terme, donc le sous-titre, des malentendus pan-européens, l'éditeur, l'inventaire, l'observatoire, franceculture.fr pour écouter l'émission, et puis en partenariat avec le Dessous des Cartes, demain sur Arte, bien sûr, nos amis, ce sera à 19h30.